Merci d'écouter RFI, 5h30 à Paris, 3h30 temps universel.
Paul Lancin Spinelli.
En Guinée, Moussa Dadis Camara n'est plus derrière les barreaux. L'ancien dirigeant condamné en juillet dernier pour crime contre l'humanité pour son rôle dans les exactions du stade de Conakry en septembre 2009 a été gracié par le général Mamadi Doumbouya. C'était vendredi. Pour la sœur de l'une des victimes, cette décision est incompréhensible. Dans ce journal également, l'appel du cardinal Stéphane Ameyou pour réclamer le maintien de la paix au Soudan du Sud dans un contexte d'escalade entre le camp du président Salva Kiir et celui du vice-président Riek Machar. Une controverse naissante au Kenya autour d'un slogan anti-William Ruto. Le chant « Ruto must go » né l'an dernier lors des grandes manifestations anti-gouvernementales continue d'être régulièrement scandé lors de rassemblements. Le chef d'état-major a dénoncé cette semaine un risque d'anarchie. Et puis c'est à la force de leur crayon qu'ils avaient dénoncé le régime d'Amin Dada. Un documentaire met à l'honneur la caricature de presse ougandaise des années 70. Focus en fin de journal. Cela faisait 8 mois que Moussa Dadis Camara n'avait pas dormi hors de prison. En Guinée, l'ancien dirigeant au pouvoir entre 2008 et 2009 a été gracié vendredi soir par le général Mamadi Doumbouya. Il est ressorti libre immédiatement. Moussa Dadis Camara avait été condamné fin juillet dernier pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Cette grâce accordée n'a pas été comprise par les victimes. C'est par exemple le cas de Fatoumata Barry. Écoutez, sa sœur, elle, avait été violée par l'un des militaires il y a 16 ans.
Ça nous a surpris tous ici de voir cette grâce. On sait qu'il y a une raison de politique dedans. Ce que nous devons dire à l'État, c'est de prendre les responsabilités et de ne pas manipuler le processus de la justice au profit de leur intérêt personnel. Et nous demandons à l'État de prendre toutes les mesures de sécurité pour les victimes, protection et sécurité pour les victimes. Quand même, c'est un peu choquant de voir les choses pareilles. Et c'est la manière de le faire. Ils ont dit comme c'est la raison de santé, les raisons humanitaires. Nous-mêmes, nous, les victimes, on est malades. Il y a beaucoup de gens qui sont malades.
Fatoumata Barry, jointe au téléphone par Pierre Sirsion. Des appels au calme pour sauver la paix au Soudan du Sud. L'arrestation du vice-président Riek Machar mercredi par les forces de sécurité du président Salva Kiir a fait grimper la tension à un point culminant, mettant en péril la trêve de 2018. Hier matin, le cardinal Stéphane Ameyou, archevêque du Soudan du Sud, a fait part de son inquiétude au nom de la conférence des évêques du Soudan et du Soudan du Sud.
The clashes between the SSPDF and SPLA-IO.
Les affrontements qui ont eu lieu entre les forces de l'armée gouvernementale et les forces de l'opposition, les arrestations de dirigeants politiques, y compris celles du vice-président Riek Machar, les déplacements croissants de civils, notamment des femmes et des enfants, témoignent d'un échec tragique d'une paix dont nous avions tous espoir et pour laquelle nous avons longtemps prié. Nous appelons une fois encore le président Salva Kiir et tous les dirigeants politiques signataires de l'accord de paix, y compris le gouvernement d'unité nationale, à honorer leur obligation sacrée à l'égard du peuple du Soudan du Sud de résister à toute tentation de revenir aux armes. En tant que berger de l'Église, nous restons prêts à offrir une médiation permettant le dialogue, à être la voix des sans-voix et à marcher main dans la main avec tous ceux qui cherchent une paix véritable.
Le cardinal Stéphane Ameyou. C'est un slogan sur lequel les Kenyans s'époumonnent dans les rassemblements et jusque dans les bars. Le chant « Ruto must go » était né l'an dernier lors des manifestations anti-gouvernementales pour appeler à la démission du président William Ruto. Et depuis, il continue d'être scandé. C'était notamment le cas le week-end dernier lors d'un match de foot à Nairobi. Cela avait beaucoup déplu au chef d'état-major des armées. Jeudi, celui-ci a même dénoncé un risque d'anarchie, ce qui a déclenché dans la foulée une vive polémique, Alban Tiroir.
Intimider les Kenyans, c'est le titre du quotidien The Standard qui rapporte les propos du chef d'état-major des armées, des propos qui ont provoqué la colère des Kenyans sur les réseaux sociaux. Le hashtag Ruto must go a été propulsé en tendance sur X, demandant la démission du président. Le chef d'état-major des armées avait souligné qu'un tel départ devrait se faire conformément à la Constitution. Il a appelé les Kenyans à exercer leurs droits en respectant certaines limites afin, je cite, de ne pas aller jusqu'à déchirer le pays. La Commission kenyane des droits humains dénonce une attaque flagrante contre les droits constitutionnels, la liberté liberté d'expression notamment. L'opposante Martha Karua, elle juge perturbant de voir le chef d'état-major des armées commenter un débat politique. Selon elle, les appels Ruto Musgo sont l'expression de l'opinion de la population et doivent être pris en compte. Depuis les manifestations de l'an dernier, le slogan est devenu courant dans beaucoup de rassemblements, même sportifs et culturels. L'analyste politique Dismas Mokwa y voit une illustration du ressentiment général qu'éprouve la population à l'égard de la classe politique, une colère face à la crise économique qui perdure et un sentiment de promesses non tenues. Alban Tirouan-Nairobi, RFI.
Au Gabon, les candidats à la présidentielle du 12 avril prochain se sont directement rendus sur le terrain pour le début de la campagne. Hier, Brice Clotaire-Oligui-Nguema avait choisi de réunir ses partisans au stade de l'Amitié à Libreville. C'est dans les quartiers pauvres de la capitale qu'Alain-Claude Bilibinzé avait lui choisi de rencontrer ses électeurs. Iloko Boussiengui, lui, a commencé également sa campagne à Libreville alors que Alain Simplice Bounguérès a quant à lui choisi la ville de Bifoun comme point de départ. Un fleuron de l'extraction d'or mise en sommeil dans l'est de la République démocratique du Congo. La société DRC Gold Trading SA, issue d'un partenariat entre Kinshasa et les Émirats Arabes Unis, avait été lancée dans le sud Kivu en janvier 2023 par Félix Tshisekedi afin de remplacer Primera Gold. Le président congolais souhaitait alors réduire les fraudes, éviter les trafics en obligeant les coopératives, négociants et exportateurs à passer par les banques locales. Mais aujourd'hui, ce système, il ne peut plus fonctionner dans une zone contrôlée en partie par l'AFC M23 soutenue par Kigali. Patient Ligodi.
Cette société devait permettre à la RDC de reprendre le contrôle sur l'or artisanal, en particulier dans l'est du pays, selon le gouvernement. Les premiers résultats ont été jugés encourageants. Dans la province du Sud Kivu, avant l'arrivée de la société, environ 25 kilos d'or artisanal étaient exportés officiellement chaque année. Un an plus tard, 5,6 tonnes avaient été exportées, générant environ 500 000 dollars de recettes selon des documents et sources consultées par RFI. Pour cette année, l'objectif était des 12 tonnes. Mais aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Selon ses dirigeants, DRC Gold Trading ne sera plus en mesure de récupérer les 10 tonnes d'or attendues cette année dans le Sud Kivu en raison de l'occupation d'une partie de la province par l'AFC M23. Pourtant, l'exploitation artisanale continue, affirme plusieurs sources, mais les revenus ne transitent plus par les circuits officiels. Comment cette filière est-elle gérée actuellement dans les zones contrôlées par la rébellion? C'est l'une des questions que devaient poser des experts des Nations Unies cette semaine lors d'une mission sur place. Mais cette mission a été annulée par l'AFC M23.
Patient Ligodi. Le dessin comme arme discrète contre le pouvoir d'Amin Dada. Dans son documentaire The Tongue Turns to the Aching Tooth, la langue se tourne vers la dent douloureuse en français. Le cinéaste néerlandais Michel van Oosterhout plonge dans l'univers de la caricature de presse sous le régime du dictateur ougandais. Jimmy Spire Sentongo, l'un des plus grands caricaturistes ougandais actuels, part à la rencontre des dessinateurs de presse des années 1970. Certains anonymes, à l'époque, s'expriment sur leur métier pour la première fois, Florence Maurice.
Leurs dessins ont marqué la culture ougandaise, mais très peu connaissent leur nom et leur visage. Il a fallu plusieurs années à l'équipe du film pour retrouver les caricaturistes qui témoignent. Michel van Oosterhout, le réalisateur.
Ils avaient peur pour leur sécurité. Même les personnes qui travaillaient dans leurs journaux que j'ai rencontrés, aucun n'a pu me donner leur nom. On m'a expliqué qu'ils déposaient simplement leurs dessins dans une boîte, repartaient, personne ne les rencontrait.
Parmi ces témoins retrouvés, GGSS, le doyen des caricaturistes ougandais, 102 ans, il se souvient comment est née sa vocation.
Nous étions en train d'applaudir le Kabaka, le roi, en visite, et j'ai repéré trois hommes avec des carnets et une caméra qui ne s'étaient pas agenouillés. Ils m'ont dit qu'ils travaillaient dans la presse. Je me suis dit, ces gens sont libres, je veux faire comme eux.
Dans le documentaire, chacun témoigne sur sa relation au pouvoir et à la censure sous Amin Dada, entre terreur et chape de plomb.
On pouvait te tuer pour avoir parlé d'Idi Amin.
James Tumusime le sait bien, un de ses dessins lui a valu d'être traqué par les services de sécurité.
Sur le dessin, un homme entrait dans une boucherie et demandait une tête de cochon. Le vendeur répondait « Mais tu ne vois pas que je suis un humain, que je n'ai pas une tête de cochon ?» Or, la nuit précédente, le régime avait fait tuer l'archevêque et Amin était surnommé « le boucher ». Donc ses services lui ont dit « Dans ce dessin, il parle de toi ».
Recherché, James Tumusime s'est alors exilé avant de revenir en Ouganda pour continuer à dessiner.
J'ai arrêté de dessiner des cochons.
Florence Maurice, dossier complet à retrouver dans le journal de 7h30, temps universel. Le lien du documentaire est disponible sur RFI.fr. Madagascar célébrait hier une tradition vieille de 5 siècles. Les descendants des grandes familles royales se sont réunis hier soir à Antananarivo pour fêter le nouvel an malgache. Sur les hauteurs de la capitale, au pied du palais de la reine, l'événement s'est ouvert par un rituel de purification. Reportage sur place de Guilhem Fabry.
C'est avec les chants et danses traditionnelles du peuple merne que s'est ouverte la cérémonie du Taum Baovao Malagasy, le nouvel an malgache. Vêtus de leurs costumes royaux, les dignitaires sont venus allumer un feu de purification. Ce rituel doit être synonyme de renouveau dans les foyers pour le pays, explique Henri Ranjadzatouv, descendant de la famille royale merne.
Le feu, c'est la lumière. La lumière chasse la peur. Il chasse les mauvaises rancunes de notre cœur aussi. L'esprit maléfique, c'est ce qui était mauvais en nous l'an passé. Donc avec le feu, on s'éveille, on a la chaleur. C'est ça la philosophie.
Ces anciennes familles royales, qui conservent encore aujourd'hui une grande influence dans les affaires politiques et sociales, possèdent chacune des rituels spécifiques. Mais pour la deuxième année consécutive, elles ont choisi de fêter ensemble le Taum Baovao, une façon de symboliser l'unité des 18 ethnies qui composent le peuple malgache, explique la princesse Fenosu Ratimamonga.
On ne peut pas avancer sans que nous soyons unis dans notre us et coutumes. Les jeunes doivent prendre l'exemple de ce que nous faisons, la tradition va se perpétuer. Tant qu'il y a un malgache vivant, ça ne disparaîtra jamais.
Hier soir, les dignitaires ont demandé à l'État que le nouvel an malgache soit déclaré jour férié pour entretenir cette tradition. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Les festivités du nouvel an malgache, elles vont se poursuivre jusqu'à demain à travers les différents sites royaux de Madagascar. RFI, 6h42 à Antananarivo, 3h42 temps universel.
Afrique Matin sur RFI. Paul Lonson-Spinelli.
Et au programme du prochain quart d'heure, un reportage sur les terres gabonaises du guerrier Wongo. Cette icône de la lutte anticoloniale du peuple Awanji dans les années 1920 fait partie des figures mises à l'honneur dans les discours de Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de la transition qui est en campagne, comme les 7 autres candidats pour la présidentielle du 12 avril. Denis Epoté vous fera découvrir ses deux têtes d'affiche de la semaine, un chef d'entreprise tchadien qui a lancé sa start-up dans les énergies renouvelables et un informaticien rwandais à l'origine d'une intelligence artificielle vocale pour assister les personnes qui ne savent pas lire. Une lutte silencieuse mais toujours farouche contre Vladimir Poutine, c'est l'objet du livre Radio Vladimir qui braque le projecteur sur les dissidents russes. Son auteur, Philippe Ziatko, est avec Anastasia Becchio. Et puis reportage à Marseille, dans le sud de la France, au Festival international de musique traditionnelle Babel Music XP. Événement qui tient à faire vivre ses sonorités loin de la récupération conservatrice. La course vers la présidentielle officiellement lancée au Gabon. La campagne pour le scrutin du 12 avril a en effet débuté hier. Parmi les 8 candidats, on retrouve Brice Clotaire Oligui Nguema. Et pour son premier meeting hier, le chef de la transition a quasiment rempli le stade de l'Amitié à Libreville. Un exercice dans lequel il a pu parfaire son argumentaire, un discours qui a pour habitude de s'appuyer sur la figure d'un guerrier. Le dénommé Wongo est devenu à la fin des années 20 une icône de la lutte contre les colons en menant la révolte du peuple Awanji. François Mazet est parti sur les traces de son héritage à Lastourville. Reportage.
Actuellement emballé dans l'attente de sa réhabilitation, voilà 20 ans que la statue du guerrier Wongo, armée de son fusil, trône sur le rond-point de la mairie de Lastourville. Il y a près d'un siècle, c'est sur les collines, à une trentaine de kilomètres, que ce notable fédérait les Awanji contre l'administration coloniale, qui exigeait, en plus des taxes, des livraisons obligatoires au marché de la ville. Enseignant originaire de la région, comme la présidente du Sénat, Paulette Misambo, dont il est le collaborateur, Jean-Paul Thierry a travaillé sur l'histoire de Wongo.
Été taxé d'indiscipliné et c'est comme ça que l'administration coloniale avait ordonné son arrestation. Et c'est comme ça que lui s'est organisé précipitamment avec les gens qui étaient autour de lui. Il a construit une armée, résisté contre l'administration coloniale. Il a été inventif. Il était presque quelqu'un d'invisible en fait.
Pendant un an et demi, les rebelles tiennent la dragée haute aux troupes coloniales. Ils creusent des tranchées, emploient des méthodes de guérilla, utilisent les grottes comme cache. Ulrich Schulz-Bavekumbu, originaire du même village, nous mène à celle de Ngongourouma, dans une zone inexpugnable.
C'est là-bas un lieu très caché. C'était un bunker naturel qui servait d'abri à la famille et la descendance. Et lors de la guerre de Wongo, les familles se sont réfugiées dans ces grottes-là parce qu'on trouvait l'alimentation pour se nourrir.
La répression est brutale. Wongo finit par se rendre en août 1929. Il meurt lors de sa déportation vers Bangui. En mai 2024, le général Oligui Nguema vient à Lastourville lui rendre hommage et promettre la rénovation de la statue. Un motif de fierté pour Jean-Paul Thiry.
Parce qu'il symbolise toute une région, tout un pays, et que nous sommes fiers d'avoir pu immortaliser Wongo de par cette stèle. Il y a eu effectivement des ouvrages là-dessus, et que l'histoire de Wongo a été comptée pour les plus jeunes. Ce qu'on souhaite à travers, par exemple, cette statue, c'est pour perpétuer cette figure-là, cette figure emblématique.
Mais la mise en avant du guerrier Wongo n'est pas neutre. Le sociologue Joseph Tonda y voit un moyen pour le chef de la transition de revendiquer une filiation.
Cet épisode est très intéressant parce qu'il renvoie au schéma de pensée selon lequel nous ne sommes pas des nuls. On a lutté pour sauvegarder notre identité, défendre notre culture. La deuxième dimension, c'est l'identification au héros. Donc c'est lui.
Plusieurs organisations gabonaises appellent à une réappropriation de l'histoire et à la mise en valeur de figures de résistance comme Wongo ou Eman Tolé en Pays Fan. François Mazet, de retour de Lastourville, RFI.
RFI, il est 5h46 à Paris, l'heure des principaux titres de l'actualité de ce dimanche 30 mars. Au moins 1644 morts en Birmanie, dernier bilan du séisme qui a frappé le pays avant-hier matin. Plus de 3400 blessés, dit aussi la junte militaire au pouvoir, alors que les secours continuent de rechercher des survivants dans les décombres. Les réseaux de communication sont pratiquement hors service dans la région de Mandalay, la plus touchée par la catastrophe, ce qui laisse aussi craindre un bilan humain autrement plus lourd. Les secours internationaux commencent à arriver. La Chine dépêche des centaines de sauveteurs. La Corée du Sud, le Royaume-Uni, l'Union européenne et les États-Unis promettent aussi d'envoyer leur aide. Plusieurs centaines de milliers de personnes affluent à Istanbul. L'opposition du CHP revendique même 2 200 000 manifestants sur la rive asiatique de la métropole. Une foule rassemblée contre l'incarcération du maire de la ville, Ekrem İmamoğlu, arrêté il y a bientôt 2 semaines et considéré comme le principal rival politique du président Erdogan. De nouvelles frappes de drones russes. Ces dernières heures, elles ont touché cette fois la ville de Kharkiv. 6 frappes au total dans cette localité du nord-est. Elles font au moins 2 morts et touchent notamment un hôpital militaire. Kiev dénonce un nouveau crime de guerre. Les flammes reprennent en Corée du Sud. Alors que les pompiers croyaient en être venus à bout, des hélicoptères ont été envoyés dans le sud-est du pays pour lutter contre un foyer ravivé ces dernières heures. Les pluies du milieu de semaine ont permis d'aider à éteindre malgré tout le principal foyer de cette catastrophe. Elle a fait 29 morts et 40 blessés. Et comme chaque dimanche sur Radio France Internationale, c'est l'heure de découvrir les têtes d'affiche de Denise Epoté. Elle s'entretient cette semaine avec Simon Bourtembourg.
Bonjour Denise.
Bonjour Simon.
Et ce dimanche, votre première tête d'affiche est originaire du Tchad. Diplômée des universités de Yaoundé et de l'Aube Nouvelle à Ouagadougou, Mario Nderengue Djiraibai possède un Master 2 en sciences de l'environnement, ainsi qu'un diplôme d'ingénieur de travaux en génie électrique, spécialisation électricité industrielle. Eh bien Denise, en 2023, il a créé G2E Muntara, une start-up qui développe des solutions énergétiques.
Sur un continent où l'accès à l'énergie reste un défi majeur, en créant G2E Muntara, Mario Nderengue Djiraibai voulait contribuer au développement durable du Tchad en combinant innovation technologique et impact social. La start-up développe des solutions énergétiques adaptées au contexte local, telles que des foyers améliorés pour réduire la consommation de combustibles polluants et des séchoirs solaires pour limiter les pertes post-récolte. L'intégration de technologies numériques avancées a permis de surveiller en temps réel la performance des solutions déployées, améliorant ainsi leur impact environnemental et économique. Autre développement de G2E, la conception de panneaux solaires équipés de microprocesseurs afin d'optimiser l'absorption d'énergie en fonction de l'ensoleillement. Cela a permis de réduire les coûts pour les ménages et d'assurer une alimentation plus stable, tout en contribuant à la création d'emplois et à la sensibilisation des communautés à l'importance de la transition énergétique. Mario Nderengue Djiraibai a reçu les prix PNUD de Tchad et Tony Elumelu pour son engagement entrepreneurial.
Et votre seconde tête d'affiche est elle originaire du Rwanda. Eugène Rwagasore possède une licence en informatique obtenue à l'Institut des sciences et technologies de Kigali. Il est donc cofondateur de Pindo, une start-up qui facilite l'accessibilité numérique. Denise, Pindo travaille dans le domaine de la communication en Afrique, et ce grâce à l'intelligence artificielle vocale pour ceux qui ont des compétences limitées en lecture.
En swahili, Pindo signifie « bord » ou « périphérie ». En référence à ces millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. La solution d'intelligence artificielle vocale inclusive, conçue par Rémi Mouiré et Eugène Rwagasore, permet à chacun, quel que soit son niveau d'alphabétisation, de se connecter ou d'accéder à l'information et de participer pleinement au monde numérique. Au lancement en 2022, Pindo proposait des messages transactionnels automatisés, tels que les notifications bancaires. En tirant parti de l'intelligence artificielle, les cofondateurs ont développé la synthèse et la reconnaissance vocale, mais également la reconnaissance d'intention, afin de rendre les services numériques inclusifs et accessibles par la parole. L'innovation est disponible au Rwanda, en Ouganda et au Kenya, où les textes écrits sont convertis en Kinyarwanda, en Swahili et en Ouganda, avec l'ambition d'être une référence en Afrique de l'Est. Pindo s'adresse également aux entreprises et leur permet d'interagir avec leurs clients. Eugène Rwagasore et Rémi Mouiré ont bénéficié du soutien financier de Google for Black Founders et de Develop, relevant du ministère allemand de l'économie, de la coopération et du développement, qui salue les avancées obtenues en intelligence artificielle vocale par la jeune start-up rwandaise.
Les têtes d'affiche de Denise Epoté. Merci Denise et bonne journée.
Denise Epoté avec Simon Bourtembourg. Dans l'ombre de la toute-puissance affichée par Vladimir Poutine, une Russie continue de résister. C'est ce que raconte l'écrivain russe en exil Philippe Diatko dans son dernier ouvrage. Il est petit-fils et fils de dissidents. Dans Radio Vladimir, l'auteur décrit la rébellion souvent solitaire et silencieuse contre celui qui dirige la Russie d'une main de fer depuis un quart de siècle. Philippe Diatko est interrogé par Anastasia Becchio.
Philippe Diatko, bonjour.
Bonjour.
Le titre de votre livre fait référence à une radio pirate d'un homme, Vladimir Roumiantsev. Vous avez entretenu une correspondance avec lui lorsqu'il s'est retrouvé en prison.
Oui, c'est un homme étonnant. Il a plus de 60 ans. Il vivait seul dans la ville de Vologda. C'est une petite ville de province située à 500 km de Moscou. Vladimir a travaillé toute sa vie dans des usines. Il était ouvrier de chaufferie et il était lui-même issu d'une famille ouvrière. Son père a travaillé à l'usine pendant 50 ans. Il a commencé à travailler sous Staline et il a terminé sa carrière sous Poutine. C'est donc un homme du peuple, un homme de la classe laborieuse. Un jour, cet homme décide qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe autour de lui, et toute sa vie, il a été amoureux de la radio. Lorsque la Russie a annexé la Crimée en 2014, il a décidé qu'il ne voulait plus écouter la propagande de l'État qui était diffusée sur les ondes. Il a tout éteint dans son appartement. Le silence s'est alors installé. Il fallait bien remplir ce vide, et il a donc commandé différents composants sur Internet. Il a construit sa propre station de radio, dont le rayon de diffusion se cantonnait à son appartement et à plusieurs appartements voisins.
Et malgré le fait que sa radio pirate était vraiment confidentielle, il a été arrêté à l'été 2022, il a été incarcéré. Dans votre livre, vous parlez de ces personnes, anonymes pour la plupart, qui continuent de s'opposer au régime, à la guerre, mais dans un environnement de plus en plus répressif. Comment exprimer aujourd'hui son désaccord sans risquer de finir en prison ?
C'est très dangereux et peu de gens réalisent à quel point c'est dangereux. Dans mon livre, je parle de cette société secrète parce que ces gens ne se connaissent pas les uns les autres. Il y a des personnes connues comme Alexei Navalny, cela fait plus d'un an qu'il n'est plus avec nous. Il y a aussi l'élu municipal d'opposition, Alexei Gorinov, qui est un véritable héros et qui est la première personne à avoir été condamnée pour avoir dénoncé la guerre. Il est torturé en prison et nous devons faire pression pour qu'il soit libéré. Plusieurs milliers d'autres personnes sont persécutées pour leurs opinions anti-guerre. Mais il y a aussi tous ceux qui sont impliqués dans une résistance discrète. Nous ne connaissons pas leur nombre. D'une manière générale, la Russie est aujourd'hui à bien des égards une boîte noire. Ce que disent les autorités, en citant les chiffres du soutien à la guerre, est certainement un mensonge. Et nous ne savons pas vraiment ce que pense la société russe. Mais nous avons divers témoignages d'actes de résistance. C'est parfois une résistance ouverte, comme dans le cas des célèbres prisonniers politiques. Mais parfois, elle est peu visible, mais elle existe.
Et il y a aussi toutes ces lettres, ces milliers de lettres de soutien que reçoivent ces prisonniers politiques.
Oui, écrire aux prisonniers politiques, c'est l'un des moyens de soutenir et de prendre part à cette société secrète. On peut leur écrire des courriers électroniques par l'intermédiaire du système pénitentiaire. Les prisonniers politiques racontent que c'est un soutien incroyable pour eux. Et à leur tour, ils soutiennent ceux qui sont à l'extérieur. C'est d'ailleurs un paradoxe frappant. Les prisonniers politiques sont souvent beaucoup plus optimistes que les personnes qui sont à l'extérieur et qui sont déprimées du fait de cette guerre. En quelque sorte, les prisonniers politiques soutiennent ceux qui sont à l'extérieur.
Vous avez quitté la Russie dès mars 2022, juste après le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. Vous vivez maintenant à Berlin. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?
Les deux premières années après mon départ de Russie, j'avais le sentiment que je n'avais pas le droit d'avoir des états d'âme et que je ne devais pas penser à moi. Une guerre terrible est en cours en Russie, on enferme des prisonniers politiques derrière des barreaux et moi, je vais penser à ma tranquillité d'esprit. C'est inconvenant. Mais ensuite, j'ai mûri et j'ai compris que pour pouvoir faire quelque chose pour les autres, il faut aussi s'occuper de soi. C'est un peu comme dans un avion. On doit d'abord mettre le masque à oxygène sur soi avant de le mettre à son enfant. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, moi, mais d'autres aussi, on met ce masque à oxygène et qu'on apprend à vivre une nouvelle vie. Cela nous apprend l'humilité. On regarde les erreurs que l'on a commises, on apprend.
Philippe Zetko, je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Radio Vladimir, aux éditions Stock.
Philippe Zietko au micro d'Anastasia Becchio. Une ode à l'aspect contemporain des musiques traditionnelles. Traditionnel et contemporain, ça peut paraître paradoxal. C'est pourtant le cœur du festival Babel Music XP qui s'est tenu il y a une dizaine de jours à Marseille, dans le sud de la France. Un événement qui met donc en avant les mélodies du monde entier avec l'enjeu d'éviter une récupération politique conservatrice, voire réactionnaire, Olivier Roger.
Chants ancestraux syriens, rites populaires galiciens, violons limousins ou encore harpes coréennes, à Babel Music XP, la tradition tient le haut de l'affiche, mais une tradition vivante, évolutive et connectée à son époque. Pour Olivier Ray, le directeur du festival, les musiques traditionnelles ne doivent pas être figées dans un passé mythifié.
On se rend compte qu'il y a des jeunes générations qui s'emparent des musiques traditionnelles et qui ont une expression extrêmement contemporaine. Et donc cette démarche-là, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet à la fois de travailler la dimension traditionnelle et patrimoniale, mais de ne pas la laisser en friche pour des pouvoirs politiques qui auraient juste des idées. Les conservateurs ont vite fait de procéder à de la récupération notamment des traditions et d'un fantasme d'une tradition épurée, c'était mieux avant, etc., etc.
Explorer l'avant-gardisme à l'aide du passé, c'est l'enjeu que se sont fixés les deux coréennes, Ah Soo Yeon et Wang Yeyoung, virtuoses d'instruments à cordes dont l'origine remonte à plus de 10 siècles. Ah Soo Yeon.
En fait, pour moi, notre musique est avant tout de la musique traditionnelle modernisée. Nous faisons de la musique coréenne contemporaine, mais parfois nous y ajoutons des éléments de musique traditionnelle. À d'autres moments, nous mettons dans nos morceaux juste nos sentiments et nos émotions.
Cette liberté de manœuvrer dans le temps, on la retrouve chez les Albanais de Shkodra Electronique, qui propulsent la musique Shkodra de leur ville natale dans l'ère des logiciels, un électrofolk transgressif et jouissif à la fois. Kole Laka est le compositeur du groupe.
La musique traditionnelle chez nous est toujours très vivante. Ce n'est pas une musique que personne n'ose toucher ou qu'il ne faudrait pas bouger. Non, en fait, on la bouge tous les jours, cette musique. Peu importe la façon dont les groupes jouent les standards, chacun peut s'en emparer et les interpréter à sa sauce.
À l'ère du repli sur soi et du conservatisme, Babel Music XP démontre que la fraîcheur et l'ouverture d'esprit habitent plus que jamais les musiques dites traditionnelles.
C'est la fin de cette première édition d'Afrique Matin avec ce reportage d'Olivier Roger. Laurent Hérault était à la réalisation, Édouard Dupénoit à la rédaction en chef. Dans 30 secondes, un nouveau journal d'actualité internationale avec Gaëtan Plénet.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Centrafrique, après le rassemblement de ce dimanche à Bangui en faveur d'une nouvelle candidature de Faustin Archange Touadéra à la présidentielle, l'opposition manifestera vendredi contre un troisième mandat du chef de l'État. Que vous inspire le climat politique ?
Appel sur l'actualité 33 9 693 693 70.
Juan Gomez, avec vous au téléphone du lundi au vendredi à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.